on peut penser qu'après l'expiration de sa garantie constructeur, il ne reste plus qu'à croiser les doigts, en espérant que tout ira bien. Ou on peut choisir l'offre Dacia Zen. Avec Dacia Zen, bénéficiez d'un an de garantie supplémentaire en effectuant votre entretien avec un forfait Dacia Essentiel, dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service.
Valable pour les véhicules de moins de 7 ans ou 120 000 km. Prise de rendez-vous et conditions sur Dacia.fr. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC. RMC, 9h30, midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h06, de retour dans les grandes gueules du sport. Nous sommes très heureux, comme tous les week-ends, le samedi, le dimanche, d'être avec vous de 9h30 à midi. Ce matin, Pascal Duprat, Marc Madiot, Renaud Longuèvre, Simon Dutin, GG qui aime bien se chatouiller les mollets, Renaud Longuèvre, Pascal Duprat. Est-ce que ce sera la même chose sur ce débat dans quelques instants sur Marcel Hirscher, la légende autrichienne du ski alpin qui a annoncé son grand retour après 5 ans d'absence, mais avec les Pays-Bas, la raison notamment de ce changement de nationalité, une histoire d'équipementier est-ce dérangeant. Ce sera la seconde dans quelques instants. 11h30, le débat caché, les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre. Et puis 11h45, les GG contre-attaquent. Vous le savez, mes GG, vous avez l'occasion de proposer un débat. Vous pouvez prendre les commandes de cette émission. Vous proposez un débat, c'est soumis au vote. Et à 11h45, le grand gagnant viendra exposer sa problématique. 20 secondes pour nous vendre votre débat. Renaud Longuèvre, tu veux parler de quoi ?
Moi, je veux parler de Kevin Mayer, qui vit un truc complètement schizophrénique parce que on le voit bien, c'est devenu un homme sandwich, hein, et on se mettrait à sa place, on accepterait tous les contrats pub, marque de rasoir, un fabricant de pneus. Je pense que tous les gens qu'il sollicite, tous ses partenaires doivent lui dire alors les jeux. Sauf que lui il en est pas là. Lui il en est à gagner son ticket et sa qualif. Et je constate que le petit marchand, lui, il est protégé de tout ça parce qu'il est là-bas, universitaire américain. Et donc voilà, j'ai envie de parler de ça.
Ok, Kevin Mayer, comment peut-il s'en sortir ? C'est ton débat, c'est ta proposition. Marc Madiot.
Moi, je veux parler de Formule 1 et de Red Bull et le départ possible d'Adrian Newey, qui est le faiseur de champions et de voitures victorieuses en Formule 1 depuis des dizaines d'années.
Est-ce que ça va redistribuer les cartes ? Tu veux nous parler de ça ?
Oui.
Marc, Pascal Duprat.
Moi, je voudrais parler d'un autre faiseur de miracles, c'est Jean-Michel Aulas, qui va devenir président de la Ligue professionnelle de football féminine. Et je me dis que ça peut être l'homme providentiel pour aider les clubs à avoir davantage de moyens et par ricochet pour que l'équipe de France féminine gagne enfin une compétition internationale.
Ok, proposition autour de Jean-Michel Aulas. Simon Dutin.
Il y a la clôture du Six Nations féminin à Bordeaux aujourd'hui, la France face à l'Angleterre, le crunch. On y croit ou pas pour les Bleus, on va battre un record d'affluence pour un match de rugby féminin. Chaque fois qu'on délocalise un match de l'équipe de France, masculine ou féminine, en province, c'est un carton. Les gens sont ravis, il y a une ambiance fantastique. Les équipes de France, Omnisport, méritent-elles un petit peu plus souvent la province ? C'est la question que je pose.
Ok, voilà 4 propositions de débat. Vous avez de quoi faire les auditeurs. Vous allez sur notre compte Twitter, le compte X des Grandes Gueules du Sport, et vous votez pour votre débat préféré.
Je peux faire de la récupération. Comme Christophe Cessieux n'est pas là, et à chaque fois il gagne grâce à son armée numérique. Et là, si l'armée numérique, votez pour moi, l'armée numérique de Christophe Cessieux.
Ce sont des
et le célèbre Mika. Allez-y.
Ce sont des bots.
On était bien d'accord. On avait 20 secondes pour présenter notre sujet.
Exactement.
Et là, on en a faire... combien ? Il y a un décompte qui doit être...
Il aura une pénalité.
On peut la faire plus courte. Si Christophe nous entend, tu peux appeler tes collègues. Ok ? Merci. Vous votez pour moi.
Ok,
voilà.
Ce sera 11h45 en tout cas. Et c'est déjà très serré sur les réseaux sociaux. Jules Renard a dit un jour, les absents ont toujours tort de revenir.
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Une page se tourne et le monde du ski perd gros, très gros. Marcel Hirscher, 30 ans seulement, a donc décidé de ranger ses skis.
Comment connaître les intentions d'un homme quand il revient vers vous ?
J'en prends $1 million !
Marcel Hirscher est sur sa planète, la planète JO. Une planète toute dorée, il va aller chercher son deuxième titre dans ces Jeux Olympiques après le super combiné.
L'homme ne revient pas pour vous, il ne revient pas pour la relation que vous avez construite. Il revient finalement par ego pour s'assurer que vous êtes encore sous son charme.
Sans patate ! Marcel Hirscher, champion olympique.
c'est la première intention de retour.
Eh là, eh là, là, comme vous y allez, vous, mais 1 million, c'est une somme. Hein, bah, 1 milliard aussi, vous me direz.
D'ordinaire, on appelle ça un coup de tonnerre. Pour lui, skieur, ce sera une avalanche. Le skieur Marcel Hirscher a annoncé cette semaine son comeback 5 ans après avoir pris sa retraite. Hirscher, une véritable légende en Autriche. Écoutez, double champion olympique, quintuple champion du monde, vainqueur de 8 gros globes de cristal. De suite, un comeback surprise et un changement de nationalité. Il représentera désormais les Pays-Bas. Pour quelle raison ? Déjà parce qu'il a la double nationalité, mais aussi c'est une histoire d'équipementier. Imaginez une seconde, les GG. Imaginez. Zinedine Zidane qui fait son retour en 2006, mais avec l'Algérie, pour promouvoir une paire de chaussures. Vous allez me dire, c'est pas pareil. Ok. Alors imaginez Alexis Pinturo qui réalise un comeback, mais avec la Suisse. Parce que c'est plus pratique, on paye moins d'impôts. La musique qui fout les jetons. Et cette question. Le comeback de Marcel Hirscher, est-ce dérangeant ? Oui ou non ? Marc Madio.
Non, parce qu'il est libre.
Il est libre Marcel, c'est ça ?
Voilà.
Il est libre Marcel.
Marcel.
Simon Dutin.
À choisir dérangeant.
Ok.
Le mot est un peu fort.
Plutôt dérangeant. Renaud Longuèvre.
Non, pas du tout dérangeant.
Pas du tout dérangeant. Pascal Duprat.
Pas du tout dérangeant, plutôt génial.
Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, Edgar Grollo. Salut Edgar.
Salut les GG, salut à toutes et à tous.
Alors raconte-nous les coulisses de ce retour improbable et impensable.
Il avait arrêté sa carrière au sommet du ski alpin mondial. Nous sommes en septembre 2019. Marcel Hirscher, l'Autrichien, a 30 ans. C'est le dernier vainqueur du gros globe de cristal et il annonce la fin de sa carrière. Il explique qu'il n'est plus prêt à payer le prix du très très haut niveau. Fatigue physique, fatigue mentale. Il prend sa retraite. Depuis 5 années sont passées. Marcel Hirscher a 35 ans et dans une vidéo publiée cette semaine, il promet que le plaisir de skier n'a jamais disparu. Il fait son retour, je cite, pour vivre sa passion. Alors, pourquoi vivre sa passion sous les couleurs des Pays-Bas et pas de l'Autriche ? Sa mère est néerlandaise, mais ça n'explique pas tout. D'abord parce que Marcel Hirscher assure qu'il ne veut pas gêner le développement des jeunes skieurs autrichiens. Et puis, il veut skier avec sa propre marque de ski qu'il a créée avec Red Bull. Et ça, ce n'est pas possible avec l'Autriche qui n'autorise que certains fabricants à ses skieurs. Évidemment, la fédération autrichienne regrette sa décision, mais a finalement décidé d'accepter à l'unanimité ce changement de nationalité sportive par estime pour ce champion. On devrait donc rapidement voir Marcel Hirscher, le Néerlandais, de retour sur les pistes.
Merci beaucoup Edgar Grollo pour ces précisions. D'ailleurs, le communiqué de la Fédération autrichienne de ski qui a déclaré « Nous regrettons énormément sa décision de demander un changement de nation ». Mais finalement, vous l'aurez compris, eu égard à son CV, ils ont accepté cette demande. Le comeback de Marcel Hirscher est-il dérangeant ? Oui, non, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. A commencer avec un oui, il est tout seul. Pourquoi oui, Simon Dutin ?
Parce que, selon un poncif bien rincé de notre profession, tu prends toujours le risque d'écorner ta légende. Voilà, quand t'es une telle légende, justement, voilà, on touche plus à rien. Le tableau, il est accroché au mur. Il est fantastique. Marcel Hirscher, moi, je suis un amoureux de ski alpin. Il est, voilà, dans le Hall of Fame du ski. Tu prends le risque. Voilà, de, alors certes, il va nous vendre le plaisir du ski, et il va aller c'est sur le circuit continental, il va skier dans l'hémisphère sud pour tenter de se qualifier, de choper des bons dossards pour la saison d'hiver. Tu auras toujours les témoignages des petits jeunes qui diront, ah, c'est fantastique, j'ai skié contre Marcel Hirscher, c'était mon idole, il lui aura collé 2 secondes dans la manche. Tu veux, le mec va forcément perdre un petit peu de son lustre. Tu l'as rappelé dans l'intro, moi j'irai plus loin, c'est comme si Alberto Tomba nous avait fait un retour avec le Pakistan ou Herman Mayer avec le Zimbabwe. Bon, c'est pas des pays de ski, les Pays-Bas, faut quand même rappeler, c'est 130 médailles aux Jeux d'hiver. 130 médailles aux Jeux d'hiver, dont 121 en patinage de vitesse. Bon, c'est pas un pays de ski alpin.
Point culminant, c'est 323 mètres.
Donc voilà, il y a.
À part
Michael Jordan qui nous avait fait ça vraiment très bien parce qu'il est revenu, il a déboîté tout le monde avec son équipe. Voilà, lui, il revient pas avec l'Autriche. L'Autriche, faut rappeler, c'est quand même en ski, c'est l'équivalent du Brésil en football, de la Nouvelle-Zélande en rugby. Il y a ce réservoir auquel il a peut-être pas envie de se confronter. Je pense que la fédération autrichienne derrière les déclarations, on regrette. Ça les arrange bien de pas avoir à gérer le comeback de Hirscher parce qu'ils ont une pépinière, une poulaillère dans laquelle ils ont des jeunes champions.
Marc,
et Hirscher, c'est terminé.
Ils ont une politique sportive.
Je vais vous dire pour illustrer en fait ce que ça me voilà la tristesse que je sais pas
souvenez-vous de voir
non mais je parle sous le contrôle de Renault. Moi mon idole en athlétisme féminin c'était Merline Autet. Je rêvais qu'elle remporte un titre olympique sur 100 mètres. Elle est passée slovène en 98
oui, quand elle avançait plus.
Et quand elle avançait plus, ça. On sait pas en tout cas ça se passait mal avec Team Jamaica et la fédération. Bon et ça a donné une fin de carrière très triste. Merline Autet avec le drapeau slovène, ça allait pas. Marcel Hirscher avec le drapeau des Pays-Bas, ça va pas. Je suis désolé.
Ça va pas et c'est dérangeant pour toi. Renaud, tu veux lui répondre ?
Ouais, moi je trouve que déjà il y a un précédent. Alors déjà j'ai l'impression la tonalité de ce que tu dis, c'est que t'es persuadé qu'en gros ça va écorner son image. Donc ça veut dire que tu penses qu'il est nul et qu'il va
ça,
pas et qu'il va rien et qu'il est pas capable de revenir à un haut niveau de performance. Et ça, moi je demande à voir parce que je veux dire on ne sait pas. Alors si c'est le cas, il y a un précédent, c'est Bjorn Borg ouais. qui s'était retiré au top à 25 ans et qui a fait un retour à Monte Carlo 10 ans après. En 91 et qui s'était très très mal passé, mais quelque part aujourd'hui, avec les années, ça n'a pas écorné en rien le prestige, la légende de Bjorn Borg. Donc, je vois vraiment.
Il y a l'idée du comeback, mais il y a l'idée du comeback avec une autre nation qui pourrait être plus dérangeante. Vas-y, Pascal Duprat.
Sa maman est hollandaise, et il a le droit de concourir.
Bien sûr, bien sûr.
Donc là, il n'y a pas de.
Non, mais attendez,
il a juste envie de reprendre. Prendre le ski et pour lever
bon,
tous les doutes.
Peut-être un peu aussi pour prendre un peu de pognon.
Mais il en a, il en a encore. C'est pas parce qu'il revient.
Mais peu importe.
Il va avoir une surexposition pour vendre ses skis, certes, mais c'est pas sa motivation première. C'est un dieu en Autriche. C'est un dieu dans le monde. Mais lui, qu'est-ce que ça va altérer quant à son palmarès ? Rien du tout. Moi, je vais vous dire un truc. J'aime bien le ski, comme vous le savez. Je viens de région où on en fait. OK? Donc, Hirscher en slalom spécial, il va concourir très vite pour les titres, hein. Il va revenir parce que c'est quand même une caste, on va dire un peu réduite, le slalom spécial. Et il est 777e aujourd'hui au classement FIS, mais il va aller concourir en Amérique du Nord, en Océanie et compagnie pendant l'été. Il va être dans les 150 parce qu'il faut qu'il soit dans les 150 meilleurs pour faire des courses de Coupe du Monde. Et il va gagner des Coupes du Monde cette année, hein. Parce que c'est un skieur, voilà, c'est un extraterrestre. Tu verras qu'il en gagne en slalom spécial. Je me délecte à Valence, à l'avance, pardon, du duel avec Marco Odermatt. Voilà, vous allez voir ce duel parce que c'est un champion incroyable. Mais et d'après les initiés, il est en très très bonne forme physique, le garçon.
Mais c'est pas que
c'est pas un retour bidon.
Mais c'est pas uniquement sur ça notre débat. Et j'entends parce que tu es à Valence et ça, je trouve ça super.
Non, à l'avance, j'ai fait un lapsus. Tu m'attrapes pour ça, Jean-Christophe.
Non, je t'attrape pas.
Franchement, merci, Jean-Christophe. Pardon.
Non, mais j'ai adoré ce lapsus. C'est pour ça que je voulais le noter. Attendez. Le vélo, par exemple, c'est un bon exemple, c'est un bon parallèle avec le ski. Parce que c'est pas un sport de nation. Par excellence, je veux dire, c'est avant tout un sport de, je veux dire, on retient pas, hormis pour des Jeux Olympiques, on retient pas forcément la nation, même si c'est un peu plus le cas pour le ski. Bernard Hinault qui fait un comeback avec l'équipe d'Espagne, tu cries pas au scandale, toi, Marc Madiot ?
Non, parce que déjà le comeback, si tu le fais 5-6 ans après, c'est mort, il est raté.
En vélo, c'est
impossible. Ouais. Ensuite, chacun est libre et Marcel est libre de faire ce qu'il a envie de faire, comme il a envie de le faire.
Marcel.
Et voilà, lui, il est libre, Marcel. Et voilà, moi, je respecte ça. S'il a envie de se faire plaisir, et même s'il prend un billet au passage, bah, tant mieux pour lui.
Imaginez, pardon,
c'est pays de sa mère.
Duplantis.
Je m'en
moque. Ça veut dire qu'il parle certain.
Mais ça veut dire, je vous donnais l'exemple de Zidane.
Et alors? Mais Zidane avait envie de jouer avec le Maroc, il joue avec le Maroc.
Non, mais avec l'Algérie. Zidane avec l'Algérie. Non, mais vous imaginez pas le truc qui se passe en France. Lui, l'icône.
Moi, franchement, ça ne pose pas de problème.
Vous êtes dans le déni.
Mais je pense que les Autrichiens, ils voient ça d'un bon œil.
Malgré tout.
Parce que à jamais, Hirscher, à jamais, ça sera un grand champion.
C'est lui
pour les
qui va skier, hein. Et personne d'autre à sa place.
Bien sûr, c'est, voilà. Mais comme les autres athlètes, c'est eux qui vont jouer. Je vais vous donner l'exemple de Vidal pour vous en donner d'autres.
Alors, t'es choqué que Duplantis, il saute pour la Suède? Parce que je te le dis, c'est un gamin américain. Son père a sauté pour l'équipe américaine. Il a grandi en Louisiane. Il a jamais mis les pieds en Suède jusqu'au moment où il est devenu bon à la perche.
Mais à partir du moment où tu choisis,
sa maman était volleyeuse, mais elle vivait aux États-Unis.
Mais ça me dit. À partir du moment où tu choisis ta nationalité et tu concours pour cette nationalité, tu représentes quelque chose. Tu représentes un pays. Qui plus est, quand
mais
tu
les
deviens
binationaux, ça existe, JC. Il faut sortir de ta cave.
Non, mais à ça, j'ai aucun problème. Les binationaux, ça existe.
On peut aimer autre chose que pardon, Paris Saint-Germain.
Mais dans les règles du sport, les binationaux choisissent. Et ils font leur choix en âme et conscience, soit selon le niveau de performance de l'équipe en question, soit selon leur appartenance du cœur. Donc ça, on n'a aucun problème avec ça. Mais à partir du moment où tu choisis, c'est étonnant. Je vous citais Bernard Hinault, je vous citais Zinedine Zidane, je vous ai cité Alexis Pinturo. Pardon, Alexis Pinturo aux Jeux Olympiques qui représente la Suisse, ça me dérange.
Mais
c'est un de nos plus illustres skieurs français.
Alors, Pinturo, c'est pas ça, lui, c'est Norvège, sa mère, ou non, c'est pas un pays.
C'est ça. Scandinave.
Non, mais, Jean-Christophe,
à ceci près que rien n'empêchait la fédération autrichienne de prendre, comment dire, Hirscher, qui voulait,
non, parce qu'il n'a pas le droit d'utiliser le matériel qui est.
Mais s'il avait eu le droit, peut-être qu'il aurait concouru pour l'Autriche. Donc là, il a pas le droit, donc il se.
Non, mais il est peut-être tout simplement
sur les Pays-Bas.
À sa mère.
Ben oui, il se retranche vers les Pays-Bas, et puis voilà.
Non, mais JC, t'es juste le mec qui est le reflet de notre époque. C'est le nationalisme exacerbé. Depuis le traité de Versailles.
En
1750, tu traversais l'Europe, il n'y avait pas de frontières sur ton cheval.
Mais
tu passais.
Ton temps,
les gens parlaient des langages, des trucs, des machins. Les nations, c'est un truc récent. Je te prie de me croire.
N'utilise pas le mot nationaliste pour ça. Moi, je vous parle de sport. Je vous parle quand tu représentes un maillot, tu représentes quelque chose.
Et surtout, peu importe. L'Autriche, on le redit, c'est la plus grande nation de ski de l'histoire. Moi, je suis persuadé qu'à la fédération autrichienne,
avec la Suisse,
oui, parce qu'Odermatt bat tout le monde. Je suis persuadé qu'en Autriche,
les Suisses, ils sont bons aussi.
En Autriche, on a bien envie que les jeunes loups autrichiens lui mettent la fessée. La saison prochaine, son espoir, c'est que il va certainement se concentrer sur le slalom, qui reste la discipline la plus ouverte, là où il y a le moins de domination. C'est pas Odermatt qui déboîte tout le monde à chaque course. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire face à Christoffersen, le Norvégien, que je considère comme le skieur le plus élégant de tout le circuit et qui skie déjà avec la marque qu'il a développée avec Red Bull. On va voir déjà s'il arrive à battre Christoffersen avec le même matériel, ce sera déjà super. Mais bon, à part l'intérêt que ça va, le coup de projecteur que ça va mettre sur le circuit mondial de ski alpin. Bon, oui, le
c'est quand même le principal.
C'est le principal. Mais je vous donne, franchement, je peux vous donner plein d'exemples. Mais peut-être parce que Marcel Hirscher, ça nous touche moins. Mais Paul Pogba, qui a la double nationalité française et guinéenne, j'ai pas envie de voir Paul Pogba à la Coupe d'Afrique des Nations avec la Guinée. Voilà, même s'il a la double nationalité et que si non, les instances.
Pas jouer, hein.
Non, mais si
mais
les instances.
Pas
mais
pourquoi
non
pas
mais non,
t'as raison, Jean-Christophe. Les Néerlandais ne vont pas s'identifier à Hirscher parce que pour eux, ce n'est
sur
personne.
Sur le fond, on est d'accord avec toi.
Et les Autrichiens, ils ont terminé leur histoire avec Hirscher.
Il fait bien ce qu'il veut. Si le foot l'autorisait, Paul Pogba, bien sûr qu'il ferait bien ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de mon avis. C'est juste que quand tu représentes un pays, que tu l'as représenté, que tu es champion du monde, que tu fais partie de l'histoire.
Alors tu regardes pas les Renaud, tu regardes pas l'athlétisme alors, parce que il y a combien de d'athlètes africains qui sont tout d'un coup devenus européens.
Mais je parlais de Merlet Noté tout à l'heure.
Ils ont pas de lien
Cubains,
de parenté hein.
Pour l'Azerbaïdjan ou le Bahreïn.
Voilà.
Bah, ou le Qatar qui se fait une équipe
alors,
de handball.
Alors tu éteins ta télé pendant les Jeux Olympiques pour ce qui est de l'athlétisme.
Non mais la semaine dernière,
il faut vivre avec son temps.
Bien sûr, mais la semaine dernière, on avait un débat assez intéressant sur par exemple Joël Embiid qui pouvait choisir, qui avait le choix du roi. Voilà, il y avait le Cameroun, c'était le pays de son papa. Il avait la France parce qu'il avait des cousins en France. Il a même fait une lettre au président de la République. Et puis il avait les États-Unis parce qu'il y joue. Et là, le sport, son sport lui permettait de pouvoir choisir, ce qui n'est pas le cas dans le foot. Quand tu revêts un maillot, après c'est fini.
Mais à partir du moment où tu es sélectionné en équipe de ton pays A en football, tu peux pas.
Oui, voilà. Mais ce qui me choque, c'est qu'à un moment donné, choisir comme si on choisissait un club. Bah, je trouve ça gênant, voilà. Je trouve d'accord. ça gênant, mais bon.
C'est une position. D'accord. C'est une position qui s'entend, mais nos positions, en tout cas ceux
elles
qui
ne s'entendent pas du tout.
Elles s'entendent aussi. Nos positions s'entendent okay. aussi.
Je voudrais vous entendre maintenant sur. On a bien compris, on va pas réussir à se départager sur ce débat, mais sur l'idée du comeback. Quand une légende revient, est-ce qu'elle prend beaucoup de risques, même s'il est libre? Tu as raison, et qu'il a s'est acheté le droit de cette liberté. Est-ce qu'il prend des risques quand même?
Non. Non, parce qu'on oublie toujours les comebacks, on fait référence aux résultats obtenus précédemment et qui sont souvent à l'honneur de ces mêmes athlètes. Donc non, vraiment c'est un sujet très personnel et je peux comprendre qu'on ait envie de revenir.
Oui, c'est là où il est génial.
Voilà. Ouais, il prend quand même le risque de vivre une expérience désagréable si ça se passe mal.
C'est là où il est génial. Oui, c'est qu'il prend ce risque-là.
Il avait replongé dans le bassin, ça s'est mal, il est resté au fond et personne ne lui en a voulu.
On oui, mais lui,
voilà, toi,
lui, il a peut-être pas vécu un truc agréable.
Ok, on s'en souviendra. Pascal.
Son initiative, justement, moi, je pense que son initiative, elle est géniale. En tout cas, moi, je l'interprète comme ça parce qu'il s'en fout de savoir s'il prend des risques ou pas. Il vit sa vie, tout simplement, de skieur. Et il a envie de rechausser les skis. Tout
simplement. Il a envie de rechausser ses
skis. C'est génial. Et ça l'empêchera pas. Il y a personne qui va lui enlever ses huit gros globes. Il y a personne qui vont lui envoyer ses deux titres, qui vont lui enlever ses deux titres olympiques. Même s'il se gaufre. Il vit, j'ai presque envie de dire, il se fout de ce que les gens pensent. Il vit son histoire.
Et
là, en cela, c'est magique. Bravo.
Et peut-être qu'il a arrêté un peu trop tôt, parce qu'à 30 ans, il avait arrêté, il ne supportait plus cette pression de la course, et ça, on peut l'entendre, et puis il avait tout gagné. Et c'est vrai que quand tu arrêtes trop tôt, bah, vous le savez, hein, vous, les sportifs de haut niveau, à un moment donné, on se pose la question, et puis 5 ans plus tard, on se dit, j'ai encore 35 ans, je suis peut-être encore capable d'essayer. Voilà ce que l'on pouvait dire sur Marché Lirceur. De toute façon, j'ai bien vu votre position et on verra quelques retouches dans votre contrat vu les positions que vous prenez à mon encontre. 11h27, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des Grandes Gueules du Sport. Le débat caché, le fameux, c'est toujours un bonbon, une surprise. Est-ce qu'il va vous faire bondir ce débat caché? C'est possible. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les Grandes Gueules du Sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h31 de retour dans les Grandes Gueules du Sport. Votre émission jusqu'à midi avec ce matin Pascal Dupraz, Simon Dutin, Renaud Longuèvre, Marc Madio. Restez avec nous. Hein. Dans une dizaine de minutes, les GG contre-attaquent. Mais GG, vous avez proposé 4 débats, un chacun, soumis au vote. Je ne vais pas vous vendre du extrêmement serré. Quoique, il y a toujours Renaud Longuèvre qui est en tête avec son Kevin Mayer sous haute pression avec 35%. Et puis Simon Dutin avec les équipes de France en province comme l'équipe de France de rugby féminine qui jouera cet après-midi avec 28%, ou encore Neway qui pourrait quitter Red Bull avec 27%, c'est proposé par Marc Madio. Bref, c'est très serré, mais il a quand même
Pascal Dupraz proposé un débat.
Moi je suis à la rue, quoi, en fait.
Alors Pascal, en fait je voulais pas en parler parce que je voulais pas stigmatiser ta 10%. Voilà, avec Jean-Michel Aulas comme providentiel. Voilà. On risque pas de parler de Jean-Michel Aulas là. Ça risque d'être compliqué. Mais vous avez encore 10 minutes, ok les copains, donc n'hésitez pas à aller voter sur le compte Twitter. Allez, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Eh oui, nous tendons des pièges aux GG qui n'ont pas le temps de réviser, de se forger un avis. Ils vont donc devoir disserter avec le cœur. Le guet-apens du jour, c'est ça.
C'est l'histoire d'un petit garçon. Cet enfant avait beaucoup de mal à différencier le bleu du rose du gris.
L'information a pu choquer certains. Ferrari va disputer le Grand Prix de Miami avec des voitures bleues les 4 et 5 mai prochains.
Il y en a qui ont essayé.
Non mais je m'en fous, ma gueule, qui a essayé.
Ils ont eu des problèmes.
Mais oui, auront-ils des problèmes avec l'histoire? Alors, Si vous voyez du bleu en tête lors du prochain Grand Prix, rassurez-vous,
ce sera pas alpine, ouais.
C'est pas les Alpines. Voilà, à l'occasion du Grand Prix de Miami la semaine prochaine, les Ferrari vont donc se draper de bleu afin de célébrer les 70 ans de présence de la marque italienne sur le marché américain. Historiquement associée au rouge, la marque italienne va donc faire une exception. Alors pourquoi le bleu ? Un peu d'histoire, c'est la couleur de NART, qu'on prenait North American Racing Team, l'importateur de la marque italienne en Amérique du Nord. En 1964, Ferrari avait déjà décoré ses F1 en bleu et blanc lors des deux derniers Grands Prix de la saison. Une volonté du grand patron Enzo Ferrari, en froid à l'époque avec la fédération italienne. Ferrari en bleu, est-ce un crime de lèse-majesté ? Oui ou non, c'est notre débat du jour. Marc Madiot.
Alors oui, parce que l'histoire...
Juste oui ou non. Oui ou non.
Alors moi je vais dire oui et non.
Oui et non. Denis Charvet sera bientôt de retour le samedi. On l'embrasse.
Non, non, mais c'est pour des raisons historiques.
Ok, très bien. Donc un peu de oui tout de même. Pascal Duprat.
Non.
Non. Simon Dutin.
Si, regardez.
Ça veut dire oui en espagnol. Renaud Longuèvre.
Ah oui, oui, oui. Bah, c'est choquant.
Plutôt oui. Ouais. Je vais commencer avec qui ? Bah, avec l'italien de la bande, Simon Dutin. Simon Duntino.
Bon, parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ferrari, c'est rouge. Ils ont survécu. Alors, perte de performance. Grâce à ça, grâce au cheval cabré, grâce à l'image, grâce au mythe, grâce à tout le décorum, Ferrari, c'est rouge, point barre. Même si on va nous expliquer que dans les années 50, ils ont déjà couru en bleu.
À l'époque, je crois. Du jaune, hein, aussi.
Oui, mais.
Pour fêter les 75 ans de la marque.
En bleu, je crois que c'est un pilote français, non, qui avait décidé de la repeindre en bleu parce que le bleu, ça faisait plus français. Non, le Ferrari, c'est rouge, point barre, on arrête de discuter et encore une fois, ils n'ont pas besoin. Si tu me dirais que c'est Marcel Hirscher qui change de couleur de ses skis pour en fourguer plus à l'international, mais non, la Ferrari, ils n'ont pas besoin, même pour marquer, je ne sais pas quel anniversaire que tu as rappelé de business.
70 avec ans de leur présence aux États-Unis.
Aux États-Unis, et, voilà. Et aux États-Unis,
en 64.
C'est du business, on n'a pas besoin et bah, je suis persuadé qu'il y a un paquet d'Américains.
Ce n'est que du business.
Parmi le nombre d'Américains qui ne savent pas situer l'Italie sur une carte du monde, il n'y en a pas beaucoup qui doivent savoir que le bleu, c'était la couleur de Ferrari lorsqu'ils ont mis les pieds en Amérique du Nord. Donc non, c'est affligeant.
Ok, Marc Madiot et ensuite...
C'est un autre anniversaire parce que Surtees est devenu champion du monde sur Ferrari en 64 avec une voiture bleue,
ouais,
et grise.
Bien.
Donc il y a aussi cet anniversaire-là, voilà. Et puis il y a un clin d'œil aux États-Unis qui est quand même, je pense, un marqué...
Il y a aussi un clin d'œil à l'Italie, voilà. Le bleu azzurro.
Mais après, je pense que c'est exceptionnel. C'est un one-shot sur ce Grand Prix des États-Unis. Et après, ils vont retrouver leur couleur traditionnelle.
Bien sûr, oui. C'est juste une exception, voilà. Grand Prix.
Moi, je peux la comprendre parce qu'il y a une histoire derrière.
Ok, mais pourquoi ça te choque alors ? T'as dit un peu de oui quand même.
Un peu de oui parce que je suis...
Viens avec moi, Marc.
Oui, parce que Ferrari, c'est rouge, tout simplement. Mais je comprends, je dis non parce que il y a toute cette histoire d'anniversaire et de 64 avec Surtees.
Ok, Pascal est convaincu, lui.
Oui, moi je suis convaincu, ça me gêne pas. Je sais que Ferrari c'est rouge, mais néanmoins ceux qui aiment les Ferrari, ça leur arrive d'acheter des Ferrari d'une autre couleur que rouge.
Donc là, justement, ça devrait être interdit.
Ah oui.
Donc oui, mais c'est comme ça. Et c'est pour revenir, c'est la mondialisation, puis aussi parce que la Formule 1, comme tout autre sport, n'échappe pas à la règle économique. Donc voilà, ils ont une idée derrière la tête, ils font bien comme ils veulent. C'est eux les boss, c'est eux les patrons, c'est leur bagnole, c'est leur marque à ceux qui décident. Donc ceux qui décident pour eux, ben vous déciderez quand vous serez patron de Ferrari. Voilà.
Ok. Bon,
ils font bien comme ils veulent. Ça c'est de l'argument. Pascal.
Renaud Longuèvre.
Non, moi j'ai aucun argument. C'est le cerveau reptilien. Moi, si c'est pas rouge, c'est pas Ferrari.
Voilà. D'accord.
C'est très bête, mais je Quand mon Stade Rennais joue pas en rouge et noir, je me sens pas bien.
Ah bah justement, je voulais en venir là-dessus.
Au début du match, j'ai presque envie d'éteindre. Je sais que c'est très très bête. Je n'ai aucun argument. C'est.
Mais tu joues avec le cœur là.
Ça s'entend, ça s'entend.
Ça tape dans le cerveau reptilien. Mais Ferrari, pour moi, c'est rouge. Voilà, une Ferrari, c'est rouge. C'est comme ça. Il y a des choses et c'est comme ça. Tu vois là. Voilà, c'est comme ça. Bah
justement.
On a une main droite, une main gauche. C'est comme ça. Le monde, il est fait. Ferrari, c'est rouge.
Je vais aller voir Pascal Duprat et Marc Madiot, oui, sur cette question, mais également Simon, parce que Simon est un grand supporter des Girondins de Bordeaux. Pascal, déjà, toi qui as été entraîneur de ce mythique, oui, club de Saint-Étienne. Saint-Étienne, oui, qui pouvait arborer, pour des raisons commerciales, allez, on peut tout, oui, rattacher à l'histoire un peu historique, mais ne jouez pas en vert. Ça te choquait pas un peu ?
Mais c'était comme ça, en fait. Chaque fois qu'il jouait Anvers, c'était rappeler l'histoire, parce que Saint-Étienne, c'est incontestable, c'est Anvers qu'ils doivent jouer. Mais quelquefois, pour à des fins marketing ou tout simplement pour les télés, parce que les couleurs sont pas reconnaissables à la télé, ben vous êtes obligé de changer de couleur. C'est comme Manchester United, c'est le club que je préfère. Ben je les adore en rouge. Mais cela dit, je suis toujours supporter quand ils jouent en blanc ou quand ils jouent d'une autre couleur. Tout simplement, c'est pareil pour Ferrari. Exceptionnellement, Ferrari va concourir en bleu à Miami. Puis alors,
ce sera pas la seule exception.
Hein. Ah, s'il y avait des couleurs, extérieures ou domiciles pour les bagnoles,
Comment cette année il y aura une Ferrari jaune?
Oui. Mais c'est quand même la deuxième couleur Ferrari quand même dans les concessions.
Mais c'était il y a deux ans à l'occasion des 75 ans de la marque, c'était le Grand Prix de Monza, je crois, où les Ferrari étaient en jaune exceptionnellement. Oui, Simon, sur notre fibre aussi, le football.
Oui, je rejoins un petit peu ce qu'a dit Renaud. Il y a des choses qui, voilà, c'est à moi l'épinière qui répond, c'est même pas ton cerveau, t'es choqué par quelque chose qui ne colle pas avec ta réalité, avec la réalité. Tu parlais des Girondins de Bordeaux. Ils avaient Alain Flelou, il avait changé le maillot pour le rouge Bordeaux, justement, dans les années 90. Et ça plaisait pas à certains supporters. Et bon, va savoir, il est resté mythique ce maillot parce que c'était l'époque Zidane, Dugarry, Lizarazu et qu'ils ont accompli des choses, notamment en Coupe d'Europe. Mais ça me donne une idée. Peut-être que Alpine devrait repeindre ses bagnoles en rouge et peut-être que ça les ferait.
Alors, ils devraient prendre aussi le moteur, le châssis. Enfin, il y a beaucoup de choses pour éviter le marsouinage, comme dirait notre ami Jean-Luc Roy. Pour clore sur ce débat, c'est vrai que j'ai oublié ce que je voulais dire. En plus, c'était très intéressant, malheureusement.
Parle-nous de ton Paris Saint-Germain.
Non, mais par contre, le Stade français, il y a eu des changements de couleur. Par exemple, le virage du rose par Max Gasini, c'est un coup de génie.
Oui, mais l'histoire est génie, mais moins ancienne.
C'est dans la durée. Oui, mais ils avaient quand même gagné le titre, tu te rappelles, avec les éclairs bleu et rouge. Et ils prennent un virage, ils passent au rose et tout. Mais là, Ferrari, un one shot en bleu, alors qu'ils y sont pas obligés. Moi, je comprends pas.
Et voilà ce que je voulais dire, c'est que le Grand Prix de Miami, c'est pas le Grand Prix le plus historique du monde, et en plus c'est l'un des Grands Prix les plus décriés avec sa fausse marina, vous voyez, très bling bling, très américain. Qu'on fasse ça à ce moment-là sur ce Grand Prix-là, sachant qu'il y en a trois en plus des Grands Prix, à la rigueur celui d'Austin a un peu plus d'ancienneté, voilà, Las Vegas, j'en parle pas, mais voilà, je trouve que déjà faire ça sur le Grand Prix de Miami, ça sent le coup marketing. Voilà, c'est pour ça que je vous proposais aussi.
Généralement, les maisons les plus anciennes dans toutes les institutions les plus anciennes qui sont les plus réticentes d'ordinaire à changer ce genre de changement. C'est étonnant que Ferrari se vautre là-dedans.
Bon, voilà, ce sera la semaine prochaine, en tout cas, des Ferrari en bleu. Et donc, si vous voyez du bleu devant, je le redis pour tous nos auditeurs qui nous écoutent, faites gaffe, c'est pas Alpine. 11h41, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Les GG contre-attaque. Qui a gagné ? Kevin Mayer avec Renaud Longuèvre ou un autre débat ? A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h45, de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission jusqu'à midi, c'est la dernière ligne droite à partir de midi, les Paris RMC avec la Dream Team, autour notamment de Paris Saint-Germain, Le Havre, le PSG qui peut être champion. Le nul est-il envisageable? Vous savez, face à Clermont, Luis Enrique avait beaucoup fait tourner, il y avait eu un partout, d'ailleurs les Havrais avaient été un petit peu mécontents de la composition de Luis Enrique. Le nul est-il envisageable? On se posera la question et on vous donnera les meilleures cotes. Toujours avec Pascal Dupraz ce matin, Simon Dutin, Renaud Longuèvre, Marc Madiot et tout de suite les GG, c'est à vous de jouer.
RMC, les GG contre-attaque.
Quatre propositions de débat ce matin, soumis au vote, vous le savez, sur le compte X des grandes gueules du sport. Vous avez pu voter, chers auditeurs, pour votre débat préféré. Alors, à la dernière place, on le regrette, car on l'adore dans cette émission, c'est Pascal Dupraz avec Jean-Michel Aulas, homme providentiel du foot féminin. 9% pour toi, Pascal. Merci beaucoup.
Première fois que je suis dernier.
Oui. Et avec aussi peu de pourcentage. Donc la communauté n'a pas joué là. Ouais. Non, 9%. Non, pas trop, écoute, c'est pas grave.
Christophe est en vacances. Voilà. Parce que je l'avais sollicité.
Voilà, t'es de repos. Les Bleus en province, nos équipes de France, proposées par Simon Dutin, 27% troisième place. Bravo Simon, t'es bien battu, 27%, c'est pas mal. C'est bien.
Troisième, c'est bien, ouais.
27.
C'est que les Parisiens qui votent, décidément, qui nous écoutent.
Parce que 28%, il est deuxième, Marc Madiot avec Neyway qui pourrait quitter, l'ingénieur qui pourrait quitter Red Bull, le faiseur de champions. Tu voulais parler de Formule 1, toi qui adore les sports méca.
C'est pas mal.
C'est pas parce que tu fais du vélo que je dis ça.
Oh non, tu vois comment tu es.
Donc,
l'œil coquin. Très
agréable.
28%. Bravo, Renaud. Bravo à Renaud Longuèvre. 36% pour son Kevin Mayer sous haute pression.
Merci, merci.
Renaud, ton devoir et ton pouvoir est simple.
Je suis assez fier.
Tu as une minute pour expliquer ta problématique et nous dire ton sentiment aux GG qui devront débattre derrière. Renaud, on t'écoute.
Mon sentiment, il est celui-là, c'est que Kevin Mayer récemment a tenté de se qualifier à San Diego pour le décathlon. Il est confronté à un problème, c'est que ni la fédération ni le comité olympique français n'ont le pouvoir de le qualifier parce que tout simplement, il doit faire 8460 points dans les deux années qui précèdent les JO et que, comme il a abandonné au championnat du monde, il n'est pas sélectionnable tout simplement au regard de la fédé internationale et du CIO. Ça, c'est le problème pour lui. Et l'autre fois, j'ai regardé un petit peu les images de France Télé qui sont allées couvrir son déca et il y a une remarque qu'il a fait dans un des insights qui m'a fait bondir, c'est que je l'ai entendu dire « oh, j'ai du mal à me motiver, je sais que dans le stade olympique, ça va aller, je serai un animal le jour J, mais j'arrive pas à me motiver dans des endroits, dans des petits, on va dire, des compètes de niveau inférieur ». Et dans ma tête, je me suis dit, mais j'avais envie. Alors, c'est un gamin que je connais, hein, mais je ne suis plus en contact avec lui. Mais j'avais envie de lui dire, mais Kevin, il est en train de se laisser. Ça doit être terrible pour lui. Parce que c'est devenu un homme sandwich. Tu vois, il est sur des spots de pub. Quand tu ouvres ta télé, tu le vois en train de se raser. Tu le vois. Et je pense que toutes les sollicitations, tout le monde doit lui dire. Alors les JO, alors Paris, alors le décathlon olympique. Sauf qu'il n'y est pas pour l'instant. Et qu'il ne peut s'en sortir que s'il fait un travail mental de se dire, pour l'instant, il n'y a pas de JO. Mais sauf que tout ce qu'il vit tous les jours lui rappelle l'inverse. Et lui dit l'inverse. Son facteur doit lui dire tous les jours, alors le décathlon des JO de Paris. Sauf que pour l'instant, il n'est pas sélectionné. Il n'a pas fait sa qualif. Tu comprends? Et le contraste pour moi est saisissant avec le petit Léon Marchand qui, lui, est complètement protégé de tout cet environnement et de toutes ces sollicitations parce qu'il est dans le système universitaire américain avec son coach et que, du coup, il peut accepter aucune sollicitation. Il n'est pas du tout immergé dans la société française et il n'y a rien qui lui rappelle qu'il a les JO sauf que lui, il le sait, c'est dans sa tête et qu'il est déjà qualifié. Donc voilà, j'avais envie de faire réagir les GG là-dessus, mais c'était un peu un cri du cœur de dire Kevin, oublie les Jeux de Paris, je sais que c'est dur, mais il faut arriver à s'en détacher parce que sinon ça va être très très dur.
Oublie les Jeux de Paris, c'est fort quand même. On va faire réagir les GG dans quelques instants, mais on va écouter Kevin Mayer. C'était il y a quelques jours, quelques semaines, un mois, je crois, Kevin Mayer qui venait de rater et d'abandonner sur son dernier décathlon. Et voici ce qu'il disait quand on lui parlait de la peur de ne pas faire les JO.
En fait, je suis en accord avec moi-même. Tous les jours de ma vie, pendant que j'ai pratiqué mon sport, j'ai tout fait pour être le meilleur et tout fait pour que tout se passe bien. À partir de là, j'ai pas de regrets à avoir sur le passé. Par contre, j'ai beaucoup de pression sur le futur pour assumer. Et ça a souvent bien marché. Donc si je suis sur mon canapé en août, je le regretterai pas, je le sais. J'aurais tout donné pour y arriver. Vu ce que je connais de moi-même, les probabilités pour que je sois sur mon canapé au mois d'août sont quand même très très restreintes.
Et c'est marrant parce que ça revient totalement à ce que tu disais il y a quelques instants, Renaud. Je sais que ça te fait réagir. Donc,
moi, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt l'inverse de ce que dit Renaud, ce qu'il nous annonce Kevin Mayer. Pardon, Renaud, hein, parce que ça se tient ce que tu dis. Mais non, Kevin Mayer, il dit, il vit avec ça tout le temps. Il a besoin de cette pression-là. Et le fait que, voilà, s'il est sur son canapé en août, ce qu'il doute fort, il aura le sentiment qu'il aura tout tenté. Moi, j'ai envie de dire, Renaud, t'as pas son 06, envoie-lui un coup de fil. C'est ça qu'il faut.
Non, je l'ai.
C'est ce que tu lui dis.
Je l'ai.
Ça a tellement de sens ce que tu dis.
Mais il y a tellement de mecs qui croient avoir le bon conseil. Je connais très bien ce milieu et je l'ai vécu avec Doucouré et beaucoup d'athlètes. C'est qu'au bout d'un moment, t'es inondé quand t'es dans la panade. T'es inondé de mecs qui savent qu'ont la bonne technique, que le bon kiné, le bon ostéo, le truc, le machin. Donc tu vois, j'ai trop de respect pour Kevin pour aller m'immiscer dans son projet. Sportif. Maintenant, là, on est au GG. Et
comme c'est complètement désintéressé, ça peut avoir du sens. Parce que tu n'es pas en train de lui commander quelque chose.
Mais tu vois, Pascal, ce qu'on a entendu, le sonore qu'on a entendu, c'est une réponse à des journalistes.
après sa dernière blessure.
C'est après
son dernier échec.
Sauf que si tu veux, moi le truc qui m'a fait tilt, c'est que ce qui est le petit son inside où dans l'instant, ce que saisit le caméraman de France Télé où il dit, oh, les gars, j'arrive pas à me motiver alors que je sais que je serai un animal le jour des Jeux. Et je sais que Kevin, il fonctionne comme ça. Et je trouve que ça contraste, c'est-à-dire que il peut pas dire autre chose que je garde la confiance. Pour réussir, il faut s'autoriser l'échec. On le connaît ce discours. Mais j'ai l'impression.
Il reste combien d'opportunités pour se qualifier?
Il en reste quelques-unes en mai notamment et en juin. Il reste quelques opportunités, quelques décathlons qualifiables pour les Jeux Olympiques. Ça doit être 2-3, je crois.
Ouais. Renaud, si par exemple je te dis je crois beaucoup au fait qu'il va se qualifier et je crois beaucoup au fait qu'il va être champion olympique, parce que justement son histoire pré-olympique, elle est tellement compliquée que je vois la belle issue. C'est incongru ce que je dis. Il est pas capable de gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques.
Je te dis oui pour le début, mais je te dis non pour la suite. Faut même pas parler des Jeux. C'est ça que je voulais dire là, tu vois, dans les GG. Okay. C'est qu'il faut pas aller là-bas. Faut même dans la pensée, faut pas y penser. C'est pas possible. Sinon, t'es flingué. Parce que tu comprends le truc. C'est comme le mec qui pense à la finale alors qu'il a même pas passé les séries.
Ouais.
Ok. Comment vous réagissez des autres GG, Marc Madio, Simon Dutin?
Moi, je suis un peu. Spectatif, je connais pas la nature des blessures, je connais pas à quel niveau physique il se situe par ailleurs par rapport à la globalité de sa performance attendue dans les différentes épreuves. Je pense que lui, il a une partie de la réponse. Est-ce que le corps médical a le reste des réponses? Je ne sais pas, parce qu'on n'a pas eu de véritable état des lieux physique à travers le médical concernant sa situation. Est-ce que le corps médical dit de toute façon c'est mort ou non, il n'y a pas de sujet, il sera apte physiquement à tenter de se qualifier ou pas? C'est un peu tout ça qui m'interroge. Moi, j'ai envie de savoir concrètement ce que pense le corps médical de la situation de l'athlète. Si le corps médical dit pas de sujet, les feux sont au vert, ce qui s'est passé dernièrement, ce ne sont que de simples anicroches et il va pouvoir se mettre en situation de se qualifier, ben j'ai envie de les croire. Par contre, si on est dans quelque chose un petit peu dans une forme de brouillard au niveau de son physique par rapport à sa qualification et par rapport à ses blessures, là, je suis beaucoup plus inquiet pour les JO.
Mais justement, on a toujours entendu dire que le décathlon, qui est extrêmement compliqué, c'est difficile d'en faire deux la même saison.
Bah ouais.
Ça va être deux extrêmement rapprochés. Mais... Et puis, il y en a un où il va dépenser beaucoup d'énergie.
Moi, j'aimerais savoir, je suis pas au fait de la situation, mais peut-être que tu le sais. On en est où au niveau médical de sa situation? Est-ce qu'on a des informations? Est-ce qu'on a des éléments concrets pour nous dire oui, non, c'est jouable, c'est pas jouable?
Non, ce qu'on
c'est un peu surprenant quand les même. Infos... Si près des Jeux, on n'est pas de véritable état des lieux de l'athlète.
Si tu veux, le truc, c'est que Kevin maintenant fonctionne un peu en bulle au niveau médical. C'est sa compagne qui est kiné.
Il n'y a pas que le kiné, il y a les médecins aussi.
Oui. Mais je pense que Kevin, c'est quelqu'un qui sélectionne beaucoup, à qui il accorde sa confiance au niveau médical. Et ça fait partie des inconnus, parce que si tu veux, le dernier décathlon, ce qu'il a dit, c'est qu'il arrête pour des raisons de tiraillement, de douleur, qui ne sont pas... il dit bien, si c'était les Jeux, je serais allé au bout, mais là, je m'arrête pour pas risquer une blessure grave, tu comprends ? Il est, si tu veux, dans un espèce de contexte qui est anxiogène, en fait, qui est très anxiogène, et le physique fait partie des angoisses.
Et c'est dommage, à ce titre-là, juste très court, que ce soit la seule grande figure de l'athlétisme français, peut-être qu'il... reçoit sur ses frêles épaules ou musclées épaules toute la pression médiatique et toute l'attente du pays sur l'athlétisme français. Ça doit pas l'aider à se préparer sereinement.
Merci Renaud de nous avoir proposé ce débat, d'avoir parlé de Kevin Mayer à moins de 100 jours maintenant des Jeux Olympiques, 90 jours des JO. Ça file à une allure, ça va être incroyable, génial. Et ce matin en direct, vous avez vécu le départ de la flamme olympique, départ d'Athènes sur le Bélème, arrivé à Marseille le 8 mai prochain. Toute l'antenne d'RMC sera en direct de Marseille d'ailleurs. Merci beaucoup Renaud Longuèvre, Marc Madio, Pascal Duprat, Simon Dutin pour cette émission ce matin. On se retrouve demain à partir de 9h30. Soyez bien présents au rendez-vous dans quelques instants. Les Paris RMC autour notamment de Paris Saint-Germain. Le Havre, restez bien avec nous. Votre programme continue sur RMC. À tout de suite.